19h19, si vous nous rejoignez à l'instant. On est avec le commissaire David Lebars. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Nous sommes avec Tuc Dual-Denis, bonsoir, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles et auteur de ce livre « La vérité sur Édouard Philippe » aux éditions Robert Laffont. Nous sommes avec Pierre Lissia, porte-parole de Libre, merci d'être là. Et Romain Colas, bonsoir. Maire PS de Boussy-Saint-Antoine. On a beaucoup de sujets au menu de Punchline ce soir. On va d'abord parler de la police, avec des annonces très attendues d'Emmanuel Macron demain à Roubaix, concernant le Beauvau de la sécurité, a priori un plan massif de modernisation de l'institution policière. Avec cette question, faut-il contrôler davantage les policiers? David Lebars, ça a été la question du jour. On a eu des fuites venant de l'Élysée, laissant entendre qu'il y aura un nouveau contrôle indépendant des policiers. On s'est dit, tiens, ils vont remplacer l'IGPN. En fait, pas vraiment. Tout ça a fait pchit au fil de l'après-midi. On parle maintenant d'une délégation parlementaire, une nouvelle entité pour contrôler ceux qui contrôlent les policiers, c'est ça?
J'ai vu comme vous des annonces avec finalement de l'information dégradée, donc je vais attendre patiemment demain le rendez-vous à Roubaix où je suis convié, mais effectivement ça a l'air d'être plutôt une forme de commission parlementaire qui contrôlerait l'IGPN. Faut rester prudent parce que l'IGPN travaille déjà sur le volet judiciaire sous l'autorité de la justice, donc ça ne peut pas être des parlementaires qui viennent contrôler l'activité de l'IGPN sur le volet judiciaire, donc déjà ça c'est un pan qu'il faut évacuer. Sur le volet administratif, on peut tout imaginer. Vous savez, moi, je suis pas bloqué par principe. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de raisonnable et qui ne paralyse pas ou qui ne vienne pas amputer l'IGPN dans son action, au détriment de l'efficacité. Parce que nonobstant les ennemis ou ceux qui considèrent que l'IGPN, c'est une machine à blanchir de l'affaire, c'est faux. Donc, il faut pas paralyser l'action de l'IGPN. Il faut juste donner des gages si le président de la République en donne et que tout ça est compatible avec l'exercice administratif de l'IGPN. Dont acte. Je rappelle toutefois qu'il y a deux inspections au sein du ministère de l'Intérieur. Et donc, il ne faut pas non plus donner
une un signal. Une qui concerne la gendarmerie, oui, pour être clair, une autre qui concerne la police.
Voilà. Et moi, je suis plutôt assez. Je serais assez vigilant à l'idée de. En tout cas, à l'annonce qui consistera à faire croire que seul l'IGPN faisait l'objet de critiques, donc qu'il fallait la réformer, alors que c'est faux, et de donner un signal à nos détracteurs. Donc il faut un équilibre, un juste équilibre, pour que ces deux inspections-là soient éventuellement sous une autorité de contrôle, le tout avec un équilibre.
Je vous passe tous la parole dans un instant, mais j'aimerais juste qu'on voit avec Victor Chabert d'Europe 1 ce qu'est exactement l'IGPN. Expliquez-nous, Victor.
Oui, alors l'IGPN dépend du ministère de l'Intérieur. Elle compte 272 agents, dont 75% sont des policiers. Elle est une autorité d'enquête, non de sanction, et peut être saisie par la justice, la hiérarchie ou des particuliers. Elle mène deux types d'enquêtes, judiciaires, sous le contrôle de magistrats, ou administratives, s'il y a soupçon d'un manquement déontologique au professionnel d'un policier. Dans ce cadre, elle propose des sanctions à la hiérarchie. Cela va de l'avertissement à une demande de renvoi en conseil de discipline pour les cas les plus graves. Selon son rapport annuel, elle a ouvert 1100 enquêtes judiciaires en 2020 et proposé des sanctions administratives pour 229 agents. Comme l'a rappelé Brigitte Julien, la directrice de l'IGPN, si la police nationale ne représente que 7% des effectifs de la fonction publique, elle totalise 50% du nombre de sanctions. La police nationale est donc de loin le corps le plus contrôlé et sanctionné.
Romain Colas, vous êtes maire socialiste de Boussy-Saint-Antoine. Il faut contrôler davantage les policiers alors qu'ils le sont déjà?
Il est utile, à mon sens, dans un moment où une des préoccupations exprimées par le Beauvau de la sécurité était de rapprocher les forces de l'ordre et nos concitoyens, que démonstration puisse être faite, que s'exerce sur la police de la République. Et moi, j'ai pas de défiance à l'égard des policiers et des gendarmes, bien au contraire, mais sur le fait que les forces de l'ordre dans la République agissent selon les règlements et selon les lois. Donc, ce qui permet, pour peu que ça paralyse pas, et je rejoins ce qui vient d'être dit par le commissaire, ce qui permet l'exercice de cette vigilance républicaine et citoyenne me dérange pas, et c'est d'ailleurs le rôle du Parlement. On nous annonce la création d'une délégation parlementaire qui aura pour charge de veiller à l'action des forces de l'ordre. Moi, je serais sensible au fait que ça concerne effectivement gendarmerie et police nationale, parce qu'on a deux forces qui agissent sur le territoire. De la même façon qu'il existe, sans que cela ne soit l'expression d'une défiance, une délégation parlementaire au renseignement. Il y a des parlementaires qui sont désignés pour ça et qui contrôlent l'action des services de renseignement. C'est le rôle du Parlement, d'ailleurs, que de vérifier la façon dont fonctionnent les services qui sont sous l'autorité du gouvernement. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Ce que j'attends surtout, c'est des annonces concrètes sur les moyens dévolus aux forces de l'ordre, police, gendarmerie, demain sur le terrain, dans ma commune de l'Essonne, mais comme sur l'ensemble du territoire national, et comment on articule les moyens qui sont dévolus à la police aux moyens qui sont confiés à la justice, parce que la chaîne pénale, c'est pas uniquement l'action des forces de l'ordre.
Pierre Licia.
Moi, je trouve que le signal est assez calamiteux. On sort d'un Beauvau de la sécurité qui nous a été annoncé en grande pompe, justement, pour à la fois retisser le lien entre la nation et sa police. D'ailleurs, au passage, j'ai quand même le sentiment que les Français demandent toujours plus de police, plus de policiers. Preuve que ce lien n'est pas si distendu que ça, quoi qu'on veuille le penser, le croire ou le dire. Effectivement, il existe certains quartiers où il y a certains malfrats, voyous, qui aimeraient moins de policiers, très certainement. Mais les Français sont en demande de sécurité, et donc en demande de plus de policiers. Donc le Beauvau de la sécurité, il aurait dû nous, et j'espère qu'il le sera, mais qui nous permettra de savoir quels sont les moyens qui sont dévolus aux policiers. Or là, la première séquence de communication, le premier résultat qui nous fuite de ce grand Beauvau de la sécurité, c'est quoi ? C'est on va contrôler davantage les policiers. Pardonnez-moi, j'ai le sentiment qu'on jette encore un peu plus le poids du soupçon et de la défiance sur une institution qui, par ailleurs, est une institution archi-contrôlée. Il n'y a pas une institution qui n'est pas aussi contrôlée que nos forces de l'ordre et qui n'est pas aussi sanctionnée que nos forces de l'ordre. Donc, il faut arrêter un peu avec cette course. Je ne sais pas. Là, encore une fois, c'est là en même temps. C'est à la fois, on va aider plus les policiers, mais en même temps, on va plus les sanctionner, plus les contrôler. On ne peut pas se dire indéfectiblement du côté des policiers et en même temps toujours participer à cette défiance permanente.
Duc Dual-Denis, journaliste à Valeurs Actuelles.
J'aimerais bien vivre effectivement dans un pays où les bavures policières sont un sujet de préoccupation majeure pour les hommes politiques. Je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence quand on voit que intervenir en banlieue pour un certain nombre de policiers, ça signifie prendre des frigos sur les voitures, se faire agresser, comme ça a été le cas au commissariat de Champigny-sur-Marne il y a même pas 2 ans, pendant 3 jours, assiégé par des hordes de jeunes armés, pour certains, de boules de pétanque. Je crois que les deux problèmes principaux pour les policiers aujourd'hui en France, c'est d'une part essayer de surnager face à la tâche administrative, c'est-à-dire qu'ils sont énormément pollués dans leur quotidien par les tâches administratives, par les procédures, c'est-à-dire qu'avant même de commencer à agir, ils sont déjà embourbés dans un certain nombre de paperasseries, si vous me permettez l'expression. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment la chaîne pénale, puisque c'est extrêmement démoralisant pour un certain nombre de policiers sur le terrain de voir que sont relâchés dans l'après-midi ou le lendemain des individus qu'ils ont parfois mis plusieurs jours ou à tout le moins plusieurs heures à interpeller. Mais au fond de tout ça, je crois que je rejoins Pierre Licia, le plus important, c'est le symbole qu'on renvoie. C'est-à-dire que, est-ce que culturellement, on a envie de faire passer l'idée à l'opinion qu'on est un pays qui a confiance en sa police, qu'on est un pays qui a envie d'aider sa police, qu'on est un pays où on a envie de faire respecter l'autorité de l'uniforme et où rien ne compte plus que de se soumettre à la loi et à ceux dont le travail est de la faire respecter. Et à ce compte-là, il y a ce mauvais signal récent, mais il y avait aussi celui donné par Emmanuel Macron lors de sa fameuse interview à Brut il y a quelques mois, où pressé, poussé dans ses retranchements, et je peux vous dire qu'il y a d'autres présidents de la République qui auraient mieux résisté à cette demi-charge du journaliste à l'époque, où il avait fini par concéder que oui, il y avait peut-être des violences policières en France, laissant entendre qu'il y avait quelque chose de systémique derrière tout ça. Et on était finalement peu de temps après les rassemblements devant le palais de justice, autour de la mort d'Adama Traoré, et de toute cette mouvance un peu culturelle et politique qui veut faire croire à la population que les policiers sont par nature violents, voire racistes. Et ça, je suis désolé, c'est évidemment éminemment condamnable.
On poursuit ce débat sur la police dans un instant. Je passerai la parole au commissaire Lebars ainsi qu'à Romain Colas, maire socialiste de Boussy-Saint-Antoine. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans les débats de Punchline avec le commissaire Lebars, avec Tuc Dual-Denis, journaliste à Valeurs Actuelles, Pierre Licia, porte-parole de Livre, et Romain Colas, maire PS de Boussy-Saint-Antoine. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Comment retisser le lien ? On parlait il y a quelques instants, le lien entre la police et la population française. D'abord, est-il si distendu que cela ? Et faut-il à tout prix des nouvelles mesures pour contrôler les policiers, pour le retisser ?
Alors, distendu, oui et non, ça dépend des secteurs. Évidemment, les délinquants sont pas fans de la présence policière. Mais le lien entre les forces de l'ordre et la population, il se distend aussi quand celles-ci n'ont pas les moyens de faire leur travail. Et quand vous voyez que la délinquance peut s'installer ou que des interventions de police, pas du fait de la qualité de l'engagement des fonctionnaires, mais parce qu'ils sont pas assez nombreux, peuvent prendre un temps infini. Moi, j'ai eu des témoignages chez moi de gens qui, rentrent chez eux après une soirée chez des amis, ils sont cambriolés, ils appellent évidemment le 17, on leur dit on arrive dès qu'on peut, ne touchez à rien parce qu'il faut qu'on fasse les constatations de police scientifique et technique, et ils attendent 2 voire 3 heures une intervention policière, ils sont dans leur pavillon qui est éventré, ils peuvent pas bouger, et pourquoi? Pas parce que les fonctionnaires de police veulent pas venir, c'est parce qu'ils sont sur autre chose et qu'ils sont pas assez nombreux. Ça donne une impression d'impuissance publique qui est assez terrible, et ça participe du fait d'abîmer le lien qui peut exister entre la police et nos concitoyens. Mais je voulais rebondir sur l'histoire de la délégation parlementaire. Moi, je suis pas un soutien d'Emmanuel Macron et je suis très circonspect sur les annonces concrètes qu'il pourra faire demain, parce que là ça relève plus du symbolique aujourd'hui. Mais il faut pas prendre, moi j'en ai été, les parlementaires pour des gens qui parce qu'ils appartiendront demain à cette délégation viendront stigmatiser la police, bien au contraire. Moi je pense que ça peut être utile aussi d'avoir des parlementaires de la majorité de l'opposition qui sont capables de pointer un certain nombre de réalités, et on s'apercevra sans doute que les députés, les sénateurs, parce que c'est arrivé sur d'autres sujets, sont des relais utiles des préoccupations exprimées par le terrain qui sont parfois pas entendues suffisamment par l'exécutif. Donc ça peut être aussi un outil, moi c'est comme ça que je le vis, où le Parlement est dans son rôle, où il contrôle l'action du gouvernement, il contrôle les moyens que celui-ci met en place en face des politiques qu'il affiche vouloir conduire, et ça peut être, je crois, utile, oui, pour le fonctionnement de notre démocratie. Et demain, pourquoi pas, pour les forces de l'ordre.
Commissaire Lemars ?
Vous le savez, moi, j'ai aucune position d'hostilité ou de principe. On verra déjà ce qu'annonce le président, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, selon les heures de la journée, les annonces ont changé. À 20h, c'est plus la même qu'à 14h. Moi, je rappelle quand même que ce qui a été dit à l'antenne, à peu près 300 personnels IGPN, 272, je crois, il n'y en a qu'une centaine qui font des enquêtes.
Oui,
donc, quand on montre du doigt une éventuelle IGPN, parce que ça resterait à démontrer qu'il ne travaille pas assez vite ou pas assez bien, il faudra déjà se poser la question de sa capacité à faire les enquêtes. C'est exactement pareil pour la suite de la chaîne pénale. Quand la justice saisit, à juste titre, parce qu'il y a énormément de plaintes pendant un épisode Gilets jaunes, l'IGPN est saturé de dossiers, c'est la réalité, et je vous assure que derrière, la justice sera saturée aussi. Donc ça ralentit encore plus le temps judiciaire. Le deuxième point, c'est, on a parlé du volet judiciaire, de toute façon, celui-ci, entre guillemets, inviolable, il est sous l'autorité du contrôle de la justice. Sur le volet administratif, sur l'activité globale de l'IGPN, que ce soit des parlementaires ou une autorité indépendante qui viennent porter un regard. Moi, j'ai aucune opposition de principe. Je rappelle qu'aujourd'hui, tous les députés ou sénateurs peuvent aller où ils veulent, dans n'importe quel locaux de police ou de gendarmerie. Pourquoi pas l'IGPN ? D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils ne seraient pas en mesure de pouvoir y aller déjà avec les textes existants, puisque l'IGPN a une activité répressive dans ses procédures, donc elle a des locaux de rétention, mais peu importe si c'est institutionnalisé, ce qu'il faut, c'est que ça soit une plus-value et surtout d'éviter le mauvais signal aux détracteurs de la police qui se diraient « Ah, vous avez vu, on vous l'avait dit, la police travaille mal parce qu'elle était couverte par l'IGPN ». Ça, je m'inscris en faux là-dessus. Je ne connais aucun policier qui a trouvé agréable de passer entre les mains d'un enquêteur de l'IGPN.
Les bœufs carottes, comme on dit. Pierre Lissière.
Non, mais ce qui est vrai, c'est que, alors après, je ne suis pas fonctionnaire de police, mais vous le savez mieux que moi, certainement, David Lebars, l'IGPN est quand même l'organe de contrôle le plus craint parmi les fonctionnaires chez qui elle est susceptible de contrôler. Donc c'est quand même un organe, j'allais dire, efficace. Et effectivement, est-ce qu'il faut créer un énième comité de contrôle Théodule qui va regarder sans trop savoir ce qu'il va chercher, etc. Moi, j'en sais franchement rien. Mais effectivement, s'il y a des difficultés, notamment de moyens, du côté de l'IGPN pour que l'IGPN puisse remplir correctement sa mission, peut-être que c'est là qu'il faut pointer le curseur et pas simplement dire on va essayer de voir si on peut pas avoir un organe un peu plus indépendant. Sous-entendu, l'IGPN ne l'est pas, et qui fera un peu mieux et qui contrôlera un peu mieux le travail des policiers. Sous-entendu, l'IGPN ne le fait pas. Encore une fois, ça participe à instaurer un climat de défiance à l'égard des policiers.
Un dernier mot, tu veux donner ?
Non, mais pour moi, c'est de la judiciarisation, quoi. C'est-à-dire, il en va de la manière dont on gère les hôpitaux, dont on gère les politiques publiques. Quand vous voyez ce qui arrive à Madame Buzyn aujourd'hui, et demain, la police, c'est-à-dire toujours plus de superposition, de comités, Théodule ou non, mais en tout cas, qui viennent entraver l'action. Et il y a un moment, c'est aussi notre manière d'organiser nos politiques publiques et nos institutions qu'on doit remettre en cause. Et évidemment que je ne suis pas contre le contrôle, mais on a des organismes déjà existants, on a des lois, pourquoi effectivement rajouter ?
Commissaire Rebars, qu'est-ce que vous attendez demain des annonces d'Emmanuel Macron, discours à 12h30 qu'on vivra en direct évidemment. Qu'est-ce que vous attendez qu'il dise ? Vous avez besoin d'entendre des mots ou vous avez besoin d'actes et de choses très concrètes ?
Non, très franchement, ça fait toujours plaisir, mais le lendemain, c'est oublié. Moi, j'attends vraiment des décisions et un cap. Voilà, je vais dire les choses clairement. Vous le savez, il y a eu le Beauvau de la sécurité qui est arrivé, je crois, juste après d'ailleurs la séquence du président chez Brut, alors qu'on venait de clôturer 2 ans de travaux et de réflexion sur le livre blanc de la sécurité intérieure. Je peux vous lister les 3 d'avant. Je vais même être très honnête. Nos prédécesseurs et des gens dans la classe politique, dans la société civile, ont déjà fait beaucoup de préconisations. Donc, je crois que maintenant, la réflexion, elle a assez duré et c'est le temps de l'action. Alors évidemment, l'action, il y a le courage politique, il y a les décisions à prendre et il y a le financement. Évidemment qu'il faut des mesures RH pour fluidifier les carrières de policiers et leur redonner un peu de lustre, mais il faut aussi des orientations stratégiques, comme le font les militaires, pour être en mesure de dire quelle police nationale ou quelle chaîne pénale on veut pour les 5, 10, 20 ans à venir. On ne se pose, depuis que je suis dans ce ministère, jamais cette question-là, parce qu'on nous flatte sur le fait qu'on est très réactif et qu'on sait gérer l'urgence. Sauf que si on avait su anticiper un petit peu ce qu'on est capable de dire, on aurait sans doute évité, par exemple, le côté amateur des gilets jaunes, côté force de l'ordre, et c'est tout à l'honneur des policiers, c'est-à-dire qu'on prend des îlotiers du mercredi pour en faire des unités le samedi face à des hordes de casseurs. Ça, c'est la faute de la puissance publique de mettre des jeunes policiers qui sont pas rodés,
mal équipés,
et c'est la responsabilité de la puissance publique de savoir aujourd'hui que ces menaces-là, elles vont durer, il ne faut pas être naïf, donc il faut nous équiper, nous former, nous donner les moyens, nous donner de la confiance, il faut être ferme, il faut donner des signaux. Bon, donc j'attends beaucoup demain, je vous en reparlerai peut-être après si je suis déçu ou pas, mais je crois que demain, c'est le temps des annonces et de la décision.
Mais on est à 7 mois de la présidentielle.
Alors, oui, et vous
faites bien. Le calendrier n'échappe à personne, David Le Bars.
Je vous remercie de cette question-là, parce que j'allais oublier l'essentiel. Les promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent. On veut, à minima, signer, que ce soit un protocole, signer quelque chose pour que ce soit la puissance publique et l'État qui s'engagent, et non pas seulement le chef de l'État d'aujourd'hui. Sinon, tout ça va se diluer dans une campagne et va engager les suivants. Alors, vous savez ce que c'est d'engager les suivants. C'est très dangereux. Alors, on n'est pas dupes sur le contexte électoral, mais pour ça, l'État a le devoir de cranter, comme on dit, ou de nous donner des garanties et un calendrier qui soit très clair et que ça engage l'État ou la puissance publique, ou les deux, évidemment.
Romain Colas, vous êtes d'accord avec ça? Il faut s'engager sur le long terme.
Oui, sur le long terme, et puis avec des mesures qui sont rapides. Enfin, je veux dire, former des policiers, ça prend un peu de temps. Leur donner les moyens d'être sur le terrain, ça prend un peu de temps. Donc, il y a juste après les annonces présidentielles, il y a un projet de loi de finances qui va être présenté pour 2022. Bah, j'attends de voir quelles sont les traductions, aussi bien pour le ministère de l'Intérieur que pour le ministère de la Justice. Je veux insister là-dessus parce que on peut avoir le meilleur travail policier qui soit réalisé sur le terrain, si derrière on n'a pas une chaîne pénale qui est efficace. Et une chaîne pénale efficace, c'est pas forcément une chaîne pénale qui est plus sévère. Les peines, quand elles peuvent être prononcées, on peut discuter, mais globalement, on a un quantum des peines qui a tendance à augmenter. Il faut qu'elles soient exécutées et il faut que la peine, elle arrive dans des délais qui sont satisfaisants. Parce que si celui qui commet une première infraction, il est jugé un an après, qu'il a eu le temps d'allonger son curriculum vitae de délinquant comme mon bras, eh ben on sera dans un échec collectif.
Yalissa ?
Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, effectivement, et je voulais revenir sur le contexte dans lequel le Beauvau de la sécurité a été annoncé. Souvenez-vous, effectivement, c'est juste après les déclarations du chef de l'État chez Brut, ces déclarations très controversées sur les policiers.
Après les violences aussi exercées contre Michel Zecler.
Absolument, mais après ces propos-là du président de la République, bronca des syndicats de police, évidemment, et à ce moment-là, il annonce le Beauvau de la sécurité. Mais effectivement, il y a déjà eu des travaux antérieurs, et on sait aujourd'hui ce qu'il faut faire, j'allais dire, pour rétablir à la fois le lien police-nation, et puis pour faire en sorte que la police fasse correctement et les moyens de remplir correctement ses missions. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ce Beauvau de la sécurité, s'il était si nécessaire que ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu lieu bien plus tôt qu'à quelques mois d'une présidentielle? Et puis surtout, dès lors que c'était un contre-feu médiatico-politique pour éteindre un premier incendie allumé lui-même par le chef de l'État lui-même, on imagine qu'il va y avoir assez peu de choses très concrètes et qu'il faudra attendre encore une fois l'échéance présidentielle pour en savoir un peu plus.
Dernier mot là-dessus, commissaire Le Bars.
Moi, j'espère que sur la fin de son propos, Pierre Lissa se trompe, parce que si effectivement il y a des annonces, des mots et puis qu'il ne se passe rien, ce ne sera même pas un problème de mécontentement policier. Je pense que ce sera un risque immense par rapport au sujet de sécurité, dont ceux qui imaginaient que ça allait être finalement une préoccupation secondaire se sont lourdement trompés. Ça fait depuis 2002 que ça dure.
On a déjà eu l'expérience pendant ce quinquennat de grandes choses qui ont été annoncées en grande pompe et qui ont accouché rappelez-vous la conférence sur l'environnement où on nous a annoncé plein de choses et puis finalement qu'est-ce qu'il en est sorti? Même le référendum, qui était la seule décision annoncée par le président de la République, finalement n'aura pas lieu.
C'est pour ça que quand je vous parle de protocole à signer, que ce soit une loi de programmation quinquennale, Il faut prendre l'exemple chez nos amis militaires. L'armée sait se projeter, sait dire ce dont elle a besoin. Elle arrive à faire financer, même si elle a d'énormes manques encore, ou toujours, parce qu'on manque toujours de beaucoup de choses. Mais nous, je vous dis, dans la police, il faut qu'on passe de l'ère de « on est dans l'urgence et dans la réaction » à l'ère de « il faut prévoir ». Et si on arrive à prévoir et à penser aussi à un autre levier, la victime, parce que tout citoyen est une victime potentielle. On parle toujours que des délinquants et des droits. Si on pense à la victime et à un sujet de sécurité pris dans le bon angle, comment on peut rendre service à nos concitoyens, on avancera déjà.
Merci beaucoup, commissaire Le Bars. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On va parler politique. Marine Le Pen a fait son entrée hier en campagne. Anne Hidalgo a été candidate. Édouard Philippe s'est rallié à Emmanuel Macron. Et Éric Zemmour va peut-être se lancer en campagne. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve sur Europe 1 avec nos débatteurs. Pierre Licia, porte-parole de Libre, Romain Colas, maire socialiste de Poissy-Saint-Antoine, et Tuc Duhal-Denis, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Vous publiez La vérité sur Édouard Philippe aux éditions Robert Laffont. On va parler d'Édouard Philippe. Tiens, bizarrement, il a pris la parole hier soir, c'était sur 7 à 8, sur TF1. Il a rallié le panache du président Macron. Timing pose un peu question, je vous en parlerai dans un instant. J'aimerais juste qu'on écoute Marine Le Pen, qui elle aussi a fait sa rentrée politique hier. Elle était à Fréjus. Écoutons-la à un moment de son discours.
Nous sommes à un moment clé de notre histoire nationale. La France est un acte de civilisation. Et cet acte d'amour et de civilisation est menacé de disparaître. Je l'ai maintes fois répété. Mais nous sommes ici tous conscients, aujourd'hui, nous arrivons à un carrefour dont une voie conduit à l'abîme et l'autre au sommet.
Alors, voilà pour Marine Le Pen hier à Fréjus. Quand vous entendez, monsieur le maire de Poissy-Saint-Antoine, le problème de civilisation, la France est un acte de civilisation, qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen ?
J'ai du mal à l'entendre, je la trouve très pénible à écouter, pardonnez-moi.
Bon, c'est la mais au-delà de la forme, faisais. le fond, ouais, enfin,
ça commence par là, j'ai l'impression qu'on me criait dessus. La France, un projet de civilisation, oui, je crois que la France c'est un projet de civilisation, l'Europe est un projet de civilisation, je crois profondément qu'il y a une civilisation européenne, j'ai pas de problème avec ça, je suis pas sûr que ce soit l'enjeu majeur de l'élection présidentielle, je pense que c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Je vois très bien à quel sujet veut faire référence Marine Le Pen, qui nous resserre d'ailleurs l'une du choc des civilisations. C'est en fait du Huntington 2.0 recyclé à l'aune du troisième millénaire. Enfin, voilà, elle est dans son registre, se renouvelle assez peu et a gagné en modestie, puisque ce sera, si j'ai bien compris, ou l'abîme si elle n'est pas élue, ou le sommet si elle accède aux plus hautes fonctions. Ça promet.
Tuc Duhal-Denis, hier, on a eu effectivement et Anne Hidalgo qui a annoncé sa candidature, Marine Le Pen qui faisait son premier meeting, et je disais Édouard Philippe qui, tout d'un coup, a rallié le panache d'Emmanuel Macron. C'était prévu ? C'était dans le timing ou pas du tout ?
C'était prévu qu'il finisse effectivement par sortir de l'ambiguïté, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a publié Impression et Ligne claire, le livre qu'il avait coécrit avec Gilles Boyer, il y avait eu quelques interviews où il refusait de répondre à cette question-là. Après, évidemment, ça ne faisait pas trop de suspense qu'il n'allait jamais aller frontalement contre Emmanuel Macron en 2022. Maintenant, pour lui, il y a aussi l'autre partie de l'interview d'hier, c'est-à-dire il a bien précisé à notre consoeur Audrey Crespo-Mara que quand on a la volonté d'exercer des responsabilités nationales comme il compte le faire dans les prochaines années, on s'y prépare. Donc ça ne vous a pas échappé aussi qu'il va créer un parti politique et qui n'est pas le même que celui du président de la République. Donc Édouard Philippe, il est conscient aujourd'hui d'une certaine capacité personnelle à être présidentiable un jour. C'est pas rien, parce que quand on voit effectivement la difficulté de Marine Le Pen qu'on vient d'entendre, au bout de la troisième candidature, à essayer d'imposer l'idée qu'elle peut être vue comme une candidate à l'élection présidentielle crédible, quand on voit le match Bertrand-Pécresse qui a énormément de mal à décoller malgré toute l'amitié qu'on a pour Pierre Licia, et quand on voit que à gauche les candidatures sont éparpillées façon puzzle, déjà avoir une stature reconnue dans l'opinion de chef d'État ou en tout cas de présidentiel, c'est pas une mince affaire. Édouard Philippe aujourd'hui, au-delà d'Emmanuel Macron, il est face à cette espèce de vertige qui concerne tous les présidentiables en France, c'est-à-dire à quel moment j'accepte d'avoir cette autonomie intellectuelle, d'avoir cette ambition un peu folle. et démesuré de me dire que un jour peut-être j'incarnerai la voix électorale pour tout un tas de d'électeurs en France.
Mais pourquoi maintenant? Ma question c'était pourquoi il le fait
maintenant? Je crois qu'il a pas voulu le faire trop tard pour pas donner lieu à la critique de déloyauté ou d'ambiguïté ou de cynisme ou de calcul de billard à trois bandes, et en même temps pas trop tôt d'une part parce que quelque part c'était mieux pour Emmanuel Macron qu'il le dise pas trop vite, comme ça vous voyez ça apporte de l'eau au moulin d'Emmanuel Macron, mais aussi et c'est là où il y a un peu un arrière-fond quoi dans ce soutien d'hier, aussi pour finalement prendre date. À partir d'aujourd'hui commence un immense rapport de force entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. C'est le début des législatives 2022, où il y aura deux mois entre l'élection présidentielle et les législatives, c'est du jamais vu, et ça va être deux mois de traction féroce. Il veut montrer que le barycentre de la majorité présidentielle, ou en tout cas de la vie politique aujourd'hui en France, il est plutôt au centre droit qu'au centre gauche, et que c'est lui qui va l'incarner, c'est lui qui va négocier, monnayer et imposer des thèmes, des élus et une certaine manière de faire de la politique, parce qu'il y a finalement assez de différence entre lui et Emmanuel Macron dans l'art de gouverner tel qu'il envisage les deux.
Pierre Licia, vous qui êtes le porte-parole de Libre, le mouvement de Valérie Pécresse.
Oui, quelle est votre question?
Alors, est-ce que, évidemment, Édouard Philippe crante le fait que la droite est en ordre dispersée et qu'elle n'arrive pas à se départager pour l'instant?
Non, Édouard Philippe, il a juste réaffirmé une allégeance qu'on lui prêtait depuis longtemps et dont effectivement il y avait une ambiguïté à l'égard du président de la République. Enfin, qu'il a cultivé cette fausse ambiguïté, parce qu'en réalité, enfin, très honnêtement, personne ne doutait que Édouard Philippe allait soutenir Emmanuel Macron. Sur l'état de la droite, très honnêtement, c'est une période qui s'ouvre aujourd'hui, et c'est une période qui est saine, selon moi, à nouveau, parce que c'est une période qui va permettre la confrontation des idées, parce que c'est bien beau d'avoir des candidats, c'est bien beau d'avoir des présidentiables, encore faut-il savoir ce qu'ils proposent et ce qu'ils présentent, et quelle est leur vision du pays et leur ambition pour la France. Le problème, et notamment en 2017, qu'on a eu un président qui était tout feu, tout flamme, jeune, frais, rayonnant, et finalement on ne savait pas ce qu'il proposait. On ne savait pas ce qu'il proposait. Emmanuel Macron a été élu sans qu'on sache véritablement où est-ce qu'il voulait emmener le pays. Et je crois que lui-même, au fond, ne le savait pas, puisque on a quand même eu des hésitations, des tergiversations sur certains sujets, notamment les sujets régaliens, communautarisme, sur la réforme des retraites. Rappelez-vous, la réforme des retraites, ce sera la réforme du quinquennat, ce sera la réforme qu'on fera parce que tous les autres ont échoué. Là, on a quand même pour la première fois dans l'histoire récente, on a pour la première fois un gouvernement, un exécutif, un président de la République qui recule sur une réforme avant même que la rue,
c'est à la faute du Covid,
avant
enfin,
même que la
Pierre.
Rue ne descende dans la rue. C'est ça, là, c'est enfin que le peuple descende dans la rue. C'est ça la réalité. Donc on a eu beaucoup, on a eu malheureusement peu de courage, beaucoup d'annonces, peu de résultats très concrets. D'autres disent, et je le partage, un quinquennat pour rien, parce que très franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce quinquennat. Alors le Covid, il a bon dos le Covid. Mais enfin, il y a quand même des sujets sur lesquels on parlait à l'instant de la police, de l'état de la police, de la justice. Oui. Le Covid n'y est pour rien. On parlait de l'état pardonnez-moi, j'en perds mes mots.
Pierre-Michel, honnêtement, je crois que je suis désolé de vous interrompre, mais je m'en réjouis absolument pas en tant que journaliste de droite, mais l'espace politique aujourd'hui des Républicains, il est en train de se réduire à peau de chagrin. Vous avez d'un côté Éric Zemmour qui anime ce début de campagne, qui est parti avec moins d'élan que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Xavier Bertrand, il s'est repris à 12 fois pour annoncer qu'il était candidat à l'élection présidentielle, et Valérie Pécresse, c'est pas comme si on découvrait tout d'un coup qu'elle avait des ambitions présidentielles. Lui, en 3 semaines d'entrée dans l'atmosphère, il secoue le jeu à la droite de la droite, et puis vous avez ce symptôme que représente Édouard Philippe. Quand vous voyez la popularité d'Édouard Philippe dans les enquêtes d'opinion à droite, il est plus populaire dans certains sondages que Nicolas Sarkozy, et alors quasiment tout le temps que Xavier Bertrand ou même Valérie Pécresse. Et donc c'est bien que la nature ayant horreur du vide, il y a l'électorat de droite qui ne sait pas à quel sein se vouer en ce moment. Est-ce qu'il faut qu'il penche vers la droite de la droite? Est-ce que effectivement, bon an, mal an, et peut-être pour des mauvaises raisons, mais le centre-droit tel qu'incarné par Édouard Philippe ou Emmanuel Macron dans ses bons jours suffit à leur bonheur? Et ça doit interroger la droite sur effectivement sa nature propre, son ADN et ce qu'elle a à défendre. Et d'ailleurs, excusez-moi, le meilleur signal pour ça, c'est juste avant qu'on commence notre émission, les Républicains ont fait un tweet ce soir en prenant la séquence de l'interview d'Édouard Philippe où il dit que lui, la principale chose pour lui, c'est d'être loyal, et avec des petits émoticônes morts de rire, et ils ont fait un montage avec le compte Twitter officiel du Parti des Républicains aujourd'hui, en montrant que effectivement il avait été jupéiste un jour, puis macroniste le lendemain, et qu'aujourd'hui il soutenait Emmanuel Macron pour 2022, mais c'est bien que quelque part ça appuie là où ça fait mal.
Romain Colas, vous voulez rajouter quelque chose Sur Édouard Philippe, peut-être pas ?
Sur Édouard Philippe...
Il a une colonne vertébrale idéologique, selon vous, ou pas ?
Ah oui, oui, Édouard Philippe, c'est un homme de droite, modéré, mais c'est un homme de droite. Et d'ailleurs, il a mis en œuvre une politique de droite. Lorsqu'il était aux responsabilités, mais ça m'étonne pas parce que pour le coup, la campagne électorale va servir aussi à décanter cette situation. Vous disiez la nature a horreur du vide. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de leader naturel ni dans la gauche que je représente, celle qu'on dit de gouvernement, comme il n'y en a pas plus dans la droite dite de gouvernement, et qu'Édouard Philippe, il a incarné une stabilité. Il a incarné aussi. Une certaine conception de l'État, dans sa rigueur, dans la qualité de sa parole. Moi, je me souviens que lorsqu'il était Premier ministre, j'en apprenais plus, là, en tant que maire, parce que j'avais à décliner localement les consignes qu'on me donnait, j'en apprenais beaucoup plus quand Édouard Philippe parlait sur ce que j'avais à faire dans la gestion de la crise sanitaire que dans les circonvolutions guerrières du président de la République. Je comprenais rien à ce qu'annonçait Emmanuel Macron. Au moins, quand Édouard Philippe parlait, c'était à peu près clair. Et donc, je pense que les Françaises, les Français, qu'ils soient de droite, de gauche, bah, ils vivent aussi dans cette conception qu'il y a quelqu'un qui a tenu la baraque à un moment, dans une période où la vie politique était quand même troublée.
Un tout dernier mot.
Moi, je ne partage pas le constat que Tugdual Denis vient de faire sur l'état de la droite. Souvenez-vous des régionales, on a tendance à un peu oublier, mais au régional, les Français se sont prononcés pour confier la direction de leur région avec des milliards d'euros de budget. Ils ne l'ont pas confié au Rassemblement National parce qu'ils savent manifestement qu'ils ne sont pas dignes de gérer. Oui, mais c'est quand même de la gestion au quotidien. Et ils n'ont pas confié pour autant, quand bien même ils dirigent le pays. Ils n'ont pas confié leur région à l'AREM, à En Marche. Ce qui veut dire que cet espace-là, qui, semble-t-il, est tiraillé entre l'AREM et Le Pen, je n'y crois pas. Bien au contraire, je pense que la France est fondamentalement de droite.
C'est la fin de notre émission.
Il n'y a que des pâles copies de ce que l'on peut
merci
proposer.
Merci à vous d'être venu ce soir dans Punchline. La vérité sur Édouard Philippe, c'est votre livre. Tugdual Denis aux éditions Robert Laffont. Merci Romain Colas. C'est Pierre Licia d'avoir participé à ce Punchline. Bonne soirée à vous tous sur Europe 1. Tout de suite, Stéphanie Loire pour Musique. À demain, 18h sur Europe 1 pour Punchline.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.